VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du 9 décembre 2016 avec Eric Manirakiza et Tatiana Mosso. Au sommaire ce soir...
Double attentat au Nigeria, au moins 30 morts selon le bilan de l'armée.
Les Ghanéens en attendent des résultats de la présidentielle. L'opposition est en avance selon les médias locaux.
Burundi, la médiation reconnaît la légitimité du régime Nkurunziza. L'opposition en exil récuse le facilitateur avec effet immédiat.
Dopage institutionnel en Russie accuse une enquête publiée aujourd'hui.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, un double attentat a fait au moins 30 morts et de nombreux blessés. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais Boko Haram est pointé du doigt. Le point avec Arzuma Compaoré.
Deux femmes kamikazes ont ciblé un marché très fréquenté de Madagali, dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. Selon un porte-parole de l'armée, Badare Akintoye, elles se sont fait passer pour des clientes avant de déclencher leur ceinture explosive en plein marché. Le bilan est très lourd. Au moins une trentaine de morts et un nombre élevé de blessés. Aucune revendication dans l'immédiat, mais le procédé porte la signature du groupe Boko Haram. Pourtant, mercredi, le président Muhammadu Buhari a déclaré lors d'un sommet sur la sécurité à Dakar que la situation est sous contrôle.
Ghana, Nana Akufo-Addo, candidat de l'opposition à la présidentielle, creuse l'écart dans le comptage des voix selon plusieurs médias locaux. Mais la commission électorale n'a publié aucun résultat officiel, n'est-ce pas Nanit Talani?
Plusieurs médias locaux annoncent cette tendance. La chaîne privée Joy News, première télévision du pays, réputée sérieuse, affirme que Nana Akufo-Addo est vainqueur. La commission électorale poursuit le dépouillement des bulletins et n'a publié aucun résultat. Son site internet ne fonctionnait toujours pas. Les deux partis se renvoient la responsabilité de cette panne informatique. La présidente de la commission électorale, Charlotte Osei, a demandé à tout le monde d'être patient, soulignant que la précision est plus importante que la rapidité. Écoutons Eric Zakassou, porte-parole de la commission.
We asked at 9:30 this morning. We have received about 210.
Ce matin, nous sommes à 93% du dépouillement. Il reste plus de 65 circonscriptions qui vont avoir un grand impact sur les résultats que nous pourrons avoir d'ici la fin de la journée ou au plus tard demain matin.
So hopefully by the close of the day, early hours of tomorrow, we should be having the results.
Nana Akufo-Addo hier soir s'est dit confiant d'avoir remporté une victoire historique. Le parti au pouvoir a qualifié cette annonce de ridicule.
En Gambie, le président élu Adama Barrow a affirmé avoir reçu jeudi le soutien du chef de l'armée. Beaucoup s'interrogeaient sur l'attitude de la hiérarchie militaire depuis la défaite surprise de Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays pendant 22 ans. Monsieur Barrow prendra ses fonctions en janvier prochain.
En Côte d'Ivoire, le Conseil national de la presse sévit sur trois journaux pro-Gbagbo à 24 heures du démarrage de la campagne électorale. Pour les législatives du 18 décembre, ils sont accusés de parti pris en faveur des frondeurs du FPI au détriment de Hifikepunye, légalement reconnu comme chef. Abdourahmane Dia.
L'organe de régulation de la presse ivoirienne accuse l'un des journaux, La Voix Originale, d'avoir attribué des titres et qualités à des frondeurs du Front Populaire Ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, créant, selon le CNP, un bicéphalisme à la tête du FPI. Et la sanction est lourde, le journal est suspendu pour 26 parutions. LG Information et aujourd'hui écope d'une suspension de 7 parutions pour publication de fausses nouvelles. Ces trois journaux ne pourront donc pas couvrir la campagne électorale pour les élections législatives qui démarrent ce samedi. Ces journaux se disent victimes de menaces graves. Ils sont considérés comme proches de l'aile radicale du FPI qui appelle au boycott des législatives alors que le camp de Pascal Hifikepunye y participe. La Voix Originale et aujourd'hui avait déjà été suspendue en octobre dernier à la veille de la campagne pour le référendum constitutionnel.
Au Mali, le procès du chef de l'ex-junte Amadou Sanogo a été renvoyé jeudi à 2017. Il est poursuivi pour l'implication dans l'assassinat d'une vingtaine de soldats en 2012.
Le Libéria a demandé à l'ONU de prolonger la présence de sa force dans le pays pour une année. Motivation, préparer correctement une nouvelle mission et installer un gouvernement démocratiquement élu en 2017.
Au Cameroun, les affrontements entre police et manifestants jeudi à Bamenda dans le nord-ouest ont fait au moins 2 morts. Fief de la minorité anglophone, la population en colère proteste contre sa marginalisation, dénoncée par des enseignants et des avocats.
Bondi, le facilitateur, juge inutile de contester la légitimité de M. Nkurunziza. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa a appelé les partis à cette crise à se concentrer plutôt sur la bonne tenue des élections de 2020. Nous aurons dans la seconde partie de cette édition la réaction de l'opposition en exil qui a recusé la médiation avec effet immédiat.
Dialogue de la dernière chance en RDC. Les participants aux nouvelles négociations entre Congolais ont mis en place aujourd'hui 3 commissions chargées de dégager le consensus sur les points de blocage à la base de l'impasse politique actuelle. Les évêques catholiques congolais pilotent depuis jeudi à Kinshasa ce dialogue en vue de résoudre la crise.
Au Kenya, des médecins militaires ont commencé aujourd'hui à soigner dans son principal hôpital public. C'est en réponse à un mouvement de grève qui dure depuis 5 jours et se durcit.
En Somalie, les principaux leaders politiques ont fixé au 28 décembre la date de la présidentielle. Ce scrutin a été déjà repoussé 4 fois.
Près de 400 migrants ont forcé la barrière de l'enclave de Ceuta à la frontière Maroc-Espagne. Ils tentaient de se rendre en Espagne dans l'espoir d'un meilleur avenir. Le point avec Dili Diko.
Environ 400 migrants originaires d'Afrique subsaharienne se sont rués à l'aube sur la barrière entourant l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. C'est l'assaut le plus important depuis plus de 10 ans. Un porte-parole de la préfecture de Ceuta a déclaré qu'il faut remonter au début des années 2000 pour atteindre un tel chiffre. Certains migrants ont assailli la double clôture torse nu ou pieds nus en criant « Espagne ». Suite à l'escalade de la barrière haute de 6 mètres, plusieurs ont été blessés. La Croix-Rouge déclare avoir soigné 103 migrants, dont 25 transférés à l'hôpital pour des points de suture. Ces migrants sans papiers tentaient de se rendre au centre de séjour temporaire pour étrangers, espérant pouvoir déposer une demande d'asile. Les ONG de défense des droits de l'homme accusent régulièrement l'Espagne de mauvais traitement des migrants dans les enclaves de Ceuta et Melilla.
Au Maroc, 2 mineurs poursuivis par la justice pour homosexualité ont été relaxés aujourd'hui et remis à leurs parents sans aucune condamnation.
6 policiers morts aujourd'hui dans un attentat à la bombe contre leur checkpoint au Caire. C'est la dernière attaque en date en Égypte visant forces de sécurité responsables selon le ministère de l'Intérieur.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La coalition contre le groupe État islamique a détruit 168 camions d'essence en Syrie, près de Palmyre. Le colonel John Dorian, porte-parole militaire de la coalition à Bagdad, a affirmé que la coalition continue à mettre les bouchées doubles contre les ressources financières des djihadistes.
Aux Pays-Bas, le député populiste Geert Wilders, reconnu coupable aujourd'hui de discrimination, mais déchargé d'incitation à la haine au terme d'un procès qui a accru sa popularité à quelques mois des législatives. Son parti pour la liberté, le PVV, est en tête des sondages avant le scrutin de mars. Messieurs Wilders avait promis moins de Marocains aux Pays-Bas.
Les députés sud-coréens ont voté aujourd'hui la destitution de la présidente Park Geun-hye. C'est la conséquence d'un énorme scandale de corruption qui a précipité dans la rue des millions de personnes et paralysé le gouvernement. Anastasie Tudiech.
Cette destitution fait suite à des manifestations monstres de millions de Sud-Coréens en colère pour exiger le départ de la présidente. Elle est accusée de violation de la Constitution, délits pénaux, corruption et abus de pouvoir. Adoptée par l'Assemblée nationale, la motion de destitution a été soutenue par l'ensemble des députés, rejoints par des frondeurs du parti de Mme Park. Park Geun-hye conserve son titre le temps que la Cour constitutionnelle entérine ou non sa destitution, ce qui pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Après un peu moins de 4 ans de mandat, Park Geun-hye pourrait devenir le premier chef de l'État sud-coréen démocratiquement élu à être démis de ses fonctions. Le pouvoir serait alors confié à son premier ministre, Hwang Kyo-ahn, un ancien procureur qui n'a jamais été élu.
Anastasie Tudiech, Barack Obama a ordonné une analyse approfondie des piratages informatiques menés pendant la campagne présidentielle, déjà considérée par les agences américaines de renseignement comme une interférence de la Russie dans le scrutin. Le président élu Donald Trump, qui a multiplié durant la campagne Des propos flatteurs envers le président russe Vladimir Poutine a toujours affirmé qu'il ne croyait pas à une intervention de Moscou visant à affaiblir sa rivale démocrate Hillary Clinton.
La Chine n'est pas parvenue vendredi à bloquer la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise des droits de l'homme en Corée du Nord. Pékin, soutenu par l'Angola, l'Égypte, la Russie et le Venezuela, a voté une annulation de la réunion. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco signée Nanit Talani.
Le géant américain Wethan de l'armement va fournir aux forces armées royales marocaines 1200 missiles anti-char TOW-2A pour 108 millions de dollars. Avec ce nouveau contrat autorisé par le département d'État américain à la défense, le Maroc continue de se maintenir parmi les plus gros importateurs d'armement en Afrique. À lui seul, ce pays a enregistré 26% des commandes totales d'armes en Afrique de 2011 à 2015 et augmenté de 528% ses importations d'armes. En Afrique du Sud, les banques commerciales sont de plus en plus réticentes à accorder aux ménages aux revenus modestes des prêts de consolidation, un mécanisme qui permet à un débiteur de voir ses dettes remboursées par une banque qui les consolide en une nouvelle, avec des taux d'intérêt plus faibles et parfois des délais de remboursement plus longs. Les banques ont durci les conditions d'octroi de crédit. Elles ont rejeté 54,45% des 9,5 millions de demandes de prêts effectuées entre juin et septembre 2016. Enfin, China Exim Bank va financer la construction de la troisième phase d'une ligne ferroviaire reliant le Kenya à l'Ouganda à hauteur de 4,9 milliards de dollars. China Exim Bank a déjà financé la première phase de cette ligne longue de 370 kilomètres.
Et on retrouve tout de suite la page sport avec Bagassi Koura, dopage en Russie, du sel et du Nescafé ajoutés dans les échantillons urinaires pour fausser les résultats.
Oui, bonsoir Tatiana, bonsoir à tous. Effectivement, révélation du rapport McLaren sur le système de dopage institutionnalisé en Russie et qui met en lumière une méthode artisanale à base de sel et de Nescafé pour fausser les résultats des contrôles effectués en amont des JO de Londres en 2012. Cette manipulation originale concerne les échantillons prélevés avant les JO 2012 et ensuite conservés en vue d'une éventuelle réanalyse par le laboratoire de Moscou.
Et on apprend que les 254 échantillons urinaires de sportifs russes collectés à Sotchi seront réanalysés du coup.
Oui, annonce faite ce vendredi par le CIO, le Comité international olympique, dans un communiqué. Ces réanalyses sont demandées à la suite donc de ce rapport du Canadien Richard McLaren dont on parlait il y a un instant. Les 63 échantillons sanguins et de sportifs russes collectés pendant Sotchi 2014 ont déjà été réanalysés et étaient tous négatifs, précise le CIO.
On revient sur le continent. Après la CAN 2016 des Dames, les Nigérianes sont toujours en grève 6 jours après leur victoire.
Oui, les footballeuses du Nigeria refusaient toujours ce vendredi de quitter leur hôtel qu'elles occupent à Abuja, la capitale, depuis dimanche pour protester contre leur fédération qui ne leur a pas, selon elles, versé les primes promises 6 jours après avoir remporté leur 8e Coupe d'Afrique des Nations. Les joueuses demandent à leur fédération le versement de plus de 16 500 dollars de bonus et indemnités par joueuse prévues selon elles en cas de triomphe continental. Elles accusent également, Tatiana, leur fédération de leur devoir de l'argent pour d'autres compétitions. Les qualifications aux Jeux de Rio 2016 et la CAN 2016, ainsi que les Jeux africains.
Merci beaucoup, Bagassi.
Et on revient plutôt sur ce problème de dopage. Bagassi, quelles seront les conséquences possibles?
Mais on ne sait pas parce que le dossier continue. Hein. La Russie demande donc avoir organisé tout ce système autour donc des jeux. Donc on verra, hein, on verra ce qui va sortir. C'est une bataille qui continue.
Et ça avait créé beaucoup d'ennuis à la Russie à Rio dans les Jeux Olympiques.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Tatiana Mosso et Eric Manirakiza en votre compagnie, toujours. Place au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
Oui, le CNRED, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise en exil, a accusé la médiation tanzanienne d'un certain parti pris. Au terme d'une visite de 3 jours à Bujumbura, le facilitateur dans la crise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, a reconnu la légitimité du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Il a appelé les partis à se concentrer sur la bonne tenue des élections de 2020. Pour réaction, Jacques Aristide a joint à Kigali, au Rwanda, le 2e vice-président du CNRED, Onésime Nduwimana.
D'abord, la question de légitimité du pouvoir de Nkurunziza, ce n'est pas qu'il ait été élu à sa, comme sa volonté de lui a dicté. C'est d'abord son pouvoir d'exercer le pouvoir qu'il a volé, mais aussi de protéger sa population qui est misérable et qui se meurt. J'ai l'impression que Nkurunziza et toute sa clique se cherchent toujours. Quant à la réaction face aux déclarations de M. William Mkapa, nous constatons qu'il vient de remettre le tablier. Son expression témoigne des difficultés qu'il a traversées de telle façon, tout ce temps-là de silence et d'incapacité de mettre les protagonistes politiques burundais sur une même table afin de négocier et arrêter ensemble une voie de sortie à la crise.
Mais le facilitateur Mkapa n'a-t-il pas raison quand il dit que vous, les partis concernés, perdez beaucoup de temps à discuter d'un événement qui est terminé, alors qu'il faut plutôt créer les conditions qui rendront les élections de 2020 libres, justes et crédibles?
Comment parvenir justement à tenir des élections libres et crédibles au moment où Nkurunziza se contente à faire museler tout le monde, au moment où il a créé une milice pour marteler et tuer tous ses opposants et tous ceux qui sont soupçonnés de ne pas concevoir la politique comme il l'entend, ce qui lui a valu d'ailleurs une enquête internationale à cause de sur les crimes graves qu'il vient d'infliger à son peuple, ce qui l'a amené à se retirer désespérément de la Cour pénale internationale. Pensons que ces élections ne sont pas possibles sans qu'on retourne justement aux principes qui régissent ce pays, à savoir le respect de l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha et la constitution burundaise. Le reste, c'est une phraséologie de faire durer infiniment cette dictature et de continuer à infliger beaucoup de peines, encore plus de malheurs à ce peuple meurtri actuellement.
Alors que Bujumbura refuse de négocier avec le CNRED, M. Mkapa, lui, voit une ouverture. L'espoir est-il donc permis de voir à tous les acteurs prendre part au dialogue?
Je pense que Mkapa, justement, n'a pas vu d'ouverture. Il ouvre la voie libre à tout aventurier et à toute forme de lutte, y compris, malheureusement, la lutte armée. Et cette lutte armée ne fera qu'aggraver les malheurs des Burundais.
Onésime Nduwimana, 2e vice-président du CNRED, joint à Kigali, la capitale rwandaise.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les Ivoiriens iront aux urnes le 18 décembre pour élire leurs députés. L'opposition avait boycotté les dernières législatives, mais cette fois-ci, elle entend prendre sa revanche du côté du pouvoir. On se dit prêt. John Lyndon a joint à Abidjan Alexis Tano, rédacteur en chef du journal Le Jour Plus.
Bon, la situation est calme actuellement. Nous savons que dans chaque unité, les gens sont à pied d'œuvre. Ils ne peuvent pas législatif. La campagne, ce sera pour demain. Et seulement au niveau de Daoukro, que nous avons, mais ce n'est pas encore une information vérifiée, qu'il y a des mouvements là-bas, que le candidat indépendant à Koto n'arrive pas à sortir, qu'ils sont fusés, auraient été encerclés par la police, alors qu'ils devraient à 17h être reçus par le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédié. Mais c'est une information qui vient de tomber, qui n'est pas encore vérifiée. En façon générale, c'est le calme.
L'opposition avait boycotté les récentes élections législatives. Sous quel signe est-ce qu'elle va se présenter cette fois-ci?
Vous savez, l'opposition vient avec un esprit de révanche. Ayant refusé ou boycotté les élections de 2013, 2012, 2013, elle entend revenir au premier plan. Mais encore, sa motivation est doublée du fait qu'ayant échoué au niveau du boycott du référendum, l'opposition entend avoir le maximum de parlementaires, de députés, afin de faire échec aux autres projets à la Constitution ou de réviser la Constitution si, d'aventure, elle a une majorité conséquente à l'Assemblée nationale. Donc, au niveau de l'opposition, les motivations sont vraiment affichées, elles sont grandes. Et nous attendons au soir du 18 décembre pour voir.
Et qu'en est-il du côté du pouvoir?
Oui, le côté du pouvoir, avec le rassemblement des dispositifs pour la démocratie et la paix, la confiance, elle est grande. Et partout, on estime qu'il n'y a pas match, comme on le dit, et que les choses ils vont conforter leur position.
Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'on craint des troubles pour ces législatives ou l'atmosphère est calme?
Apparemment, ça doit se passer dans de bonnes conditions parce que la pré-campagne, la période qui a précédé la campagne, elle s'est déroulée sans accroc, mais seulement au niveau des indépendants et au niveau du RADP, Rassemblement des Dispositifs, où le nombre important de candidats avait inquiété un peu l'Alliance des Dispositifs. Mais de façon générale, on peut prétendre à une élection très apaisée.
C'était Alexis Tano, rédacteur en chef du journal Le Jour Plus, joint par John Lyndon.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
La Russie a indexé dans le dopage. Le juriste canadien Richard McLaren a dévoilé aujourd'hui à Londres un rapport explosif sur le dopage institutionnalisé en Russie entre 2011 et 2015. Plus de 1000 athlètes russes et plus de transports sont concernés. Les précisions de Salwa Jafari.
It is impossible to know how deep.
Il est impossible de savoir jusqu'où et depuis quand remonte cette conspiration. Pendant plusieurs années, les compétitions sportives internationales ont été inconsciemment détournées par les Russes. Les entraîneurs et les athlètes ont pratiqué sur un terrain inégal. Les amateurs et les spectateurs ont été trompés. Il est grand temps que ça cesse.
Stops.
Le rapport exhaustif du juriste canadien Richard McLaren dévoile une arnaque de grande envergure. Des services secrets de mèche, des années de mensonges, du café soluble pour diluer la tricherie. Plus de 1000 athlètes dans 30 sports en ont bénéficié. Jean-François Villotte est avocat spécialisé dans l'éthique du sport. Il a été par ailleurs chef de la délégation française au comité de rédaction de la Convention du Conseil de l'Europe contre la manipulation du sport.
Ce second rapport, beaucoup plus précis, va permettre aux fédérations internationales concernées d'instruire sur le plan disciplinaire la situation des sportifs concernés. Deuxième niveau de lecture et d'interprétation, et il est au moins aussi important, les grands principes qui ont été mis en place pour lutter contre le dopage au début des années 2000, avec le Code mondial en 2003, avec la Convention de l'UNESCO en 2005, avec l'Agence mondiale, les grands principes de répartition des tâches et des responsabilités doivent être remis en question.
Le premier volet du rapport, divulgué en juillet, avait mis à jour une tricherie spécifique pour les Jeux d'hiver 2014 à Sotchi, où la Russie avait triomphé devant Vladimir Poutine. Le rapport d'aujourd'hui confirme que la fraude était généralisée à l'ensemble des grandes compétitions qui ont eu lieu durant la période 2011-2015, à savoir également les Jeux olympiques et paralympiques de 2012, ainsi que les mondiaux d'athlétisme à Moscou en 2013. Mais même si les maux du sport russe ont été diagnostiqués, l'Agence internationale de dopage n'a pas les moyens d'y remédier.
Le gendarme de la lutte contre le dopage est censé être l'Agence mondiale antidopage. Son budget est d'une trentaine de millions de dollars, c'est-à-dire trois fois le budget d'une agence nationale comme l'agence française. C'est pas avec ce budget-là que l'AMA peut être le gendarme international de la lutte contre le dopage et contrôler les laboratoires qu'elle accrédite.
Ce rapport met en tout cas en doute la capacité de la Russie à garantir des compétitions internationales équitables sur son sol, alors que le pays doit accueillir les championnats du monde de bobsleigh en 2017, puis la Coupe du monde de football en 2018.
Arrêter la violence contre les filles, tel était le thème du sommet sur les mutilations génitales féminines qui s'est déroulé le 2 décembre 2016 à l'Institut de la paix ici à Washington. Nathalie Barge s'est rendue sur place lors de l'événement.
Le sommet a été ouvert par la directrice de l'Institut de la paix, Nancy Lindborg. Elle a rappelé que, hormis la guerre et la violence armée à travers le monde, il est ici une autre forme de violence, celle infligée à des millions de filles et de femmes qui subissent l'excision dans plusieurs régions du monde. Pour Aissata Camara, cofondatrice de There is No Limit Foundation, c'est l'affaire de toute la communauté internationale.
Tous les pays développés doivent parler et doivent aider à mettre fin à cette pratique, parce que tu ne peux pas dire que c'est seulement le problème des Africains.
Éradiquer les MGF d'ici 2030 est l'un des objectifs des Nations Unies. Un défi de taille, et les militants ont pris les devants, comme Mariam Conté, enseignante à Washington, qui a dirigé un spectacle lors de l'événement avec les enfants de sa petite troupe.
Je suis très fière d'eux parce qu'ils ont participé, ils se sont donnés à fond. Donc ils ont découvert l'amour pour ces jeunes femmes qui souffrent en Afrique. Et ils ont des mères aussi qui ont été victimes de ces mutilations, comme moi par exemple. Mais on essaye de transformer la douleur en une idée très solide pour qu'on éradique complètement l'excision dans le monde entier.
Le sénateur du Nevada à la retraite, Harry Reid, était de la partie. Très ému, il a évoqué sa réaction lorsqu'il a vu pour la première fois une fille de 9 ans retenue de force par plusieurs hommes pour être excisée. « Je vois encore ces images », a-t-il déclaré. « Après 34 années au Congrès, je ressens un échec total à ce sujet. Nous n'avons rien fait », a-t-il martelé. Déborah Ottenheimer, gynécologue new-yorkaise, milite contre les MGF depuis qu'elle soigne des patientes victimes d'infibulation, la forme d'excision la plus extrême.
J'ai commencé à travailler au Bronx, le sud du Bronx, où se trouvent beaucoup d'immigrés de l'Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai dû soigner les femmes pendant la grossesse qui ont été excisées ou même infibulées.
Katie Russell, ambassadrice américaine pour les droits des femmes dans le monde, a rappelé combien la lutte est longue. Le sommet n'a pas manqué d'aborder la question de l'impunité avec des juristes qui ont appelé à la création et au renforcement des lois contre l'excision dans le monde, non sans rappeler la nécessité de les appliquer.
Et c'était un magazine signé Nathalie Barge.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma et à la console, Souleyman Talaware. Présentation, Eric Manirakiza et Tatiana Mosso.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.